Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Escapade. Nous sommes en direct depuis la salle des fêtes de Ganges pour le festival numérique des Cévennes connectées. Fabien est en technique, Héloïse est avec moi en plateau pour son dernier jour de stage chez nous. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Et nous sommes pour ouvrir ce plateau avec Sébastien et Sonia de la Gantique. Président et directrice, je ne dis pas de bêtises, ce sont bien vos fonctions?
C'est bien ça.
Bonjour.
C'est ça.
Bonjour.
Héloïse, je te laisse la parole.
Alors, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous expliquer, nous rappeler un petit peu ce que c'est la Gantique?
Alors, la Gantique, c'est un centre social qui porte aujourd'hui quatre pôles. Donc, on a le pôle adulte-famille avec différentes animations proposées, des animations famille, de la parentalité. On a également un pôle ado avec un appart. Donc, ça, c'est très important d'avoir un lieu pour les ados à Ganges. On a également un pôle social où on fait de l'apprentissage de la langue française, écrite et orale. On a de l'accompagnement social pour les allocataires du RSA. Et on a un pôle pour tous, où là, on fait plein de choses. Ça va d'un projet mobilité à une ludothèque, à un service pour les associations, un atelier futsal pour les papas et les ados. Donc, énormément de choses.
Ok. Et du coup, comment vous en êtes venu à avoir l'idée d'organiser cet événement, la journée du numérique?
Alors, elle est née d'une volonté de la communauté de communes, des Cévennes gangeoises et suménoises, avec qui on travaille en étroite collaboration. Le centre social La Gantique fait partie du réseau parentalité gangeois. On coanime avec la communauté de communes et on a eu une proposition des différentes institutions de pouvoir créer un festival numérique il y a de ça déjà 2 ans, et on s'est dit feu, on y va, et on aime bien travailler ensemble. Voilà.
Ok.
Oui, du coup, l'objectif de ce festival, c'est vraiment de travailler à la prévention sur la question du numérique, notamment sur les usages de réseaux sociaux, sur la question de la cybersécurité, sur la question de la gestion des temps d'écran aussi chez la jeunesse. Donc ça s'adresse à la fois, aujourd'hui on est plutôt sur une journée dédiée aux scolaires, mais ça s'adresse également aux familles, aux parents, avec la deuxième journée du samedi. Et l'idée, c'est aussi d'informer les parents, de les sensibiliser, c'est comprendre pour savoir derrière comment mieux gérer, mieux anticiper les risques. Et tout ça, on essaie de le mettre en place dans un esprit convivial, avec des stands, des ateliers, quelque chose d'un peu joyeux, avec pas mal de dimensions participatives sur les différents stands.
Ouais, donc je rappelle le festival. Donc c'est un festival numérique, on va en parler, des Cévennes connectées. Donc c'est aujourd'hui vendredi, mais aussi demain samedi 11 octobre. Tout ça, c'est à la salle des fêtes de Ganges. Ce vendredi-là, on est effectivement dans la salle où il y a plutôt des scolaires qui sont là, des 3 classes, je crois, d'école primaire, le collège Louise Michel qui est là pour la matinée. Et puis cet après-midi, je pense qu'il y aura d'autres établissements qui vont venir aussi. Donc des stands vraiment axés sur la jeunesse. Il y a pas mal de jeux. Il y a aussi pas mal de jeux en bois. On va en parler de ça, de la déconnexion et le rapport aux jeux qu'on a aux jeunes. Et demain, donc, c'est une journée ouverte à tous et toutes. Et donc les familles, le samedi 11 octobre, pareil, les horaires donc de 10h à midi 30 et de 14h à 18h. La salle des fêtes est ouverte, n'hésitez pas à venir y passer la journée ou 5 minutes. Il y a de quoi jouer, il y a aussi pas mal de choses informatives. Il y a des stands effectivement pédagogiques pour discuter un petit peu de tous les enjeux, que ce soit les jeunes ou les parents. Et ce soir, donc ce vendredi, on en profite pour annoncer une conférence qui est ouverte à tout le monde. Et ça se passe au collège Louise Michel, donc ça s'appelle Les bonnes pratiques. C'est à 17h30. Et à 19h à la médiathèque Lucie Aubrac, une soirée jeux vidéo. Puis on va avoir le temps un petit peu de détailler toute cette programmation avec nos invités. Je te laisse prendre la main sur ça. Héloïse est avec moi, à chaud. Hop, je lui ai dit prends un micro, tu viens faire, tu poses des questions.
Du coup, oui, là, donc ce soir, oui.
je voulais un petit peu que tu les qu'on discute plus en avant sur les propositions culturelles qu'il y a, donc notamment par exemple la soirée jeu ou la conférence.
Okay. Et oui, du coup, tout public, vous pouvez y aller, c'est tout public. La conférence Bonne Pratique à 17h30 au collège Louise Michel. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça, ce que c'est ?
Alors, on a deux intervenants. On va avoir l'association Causons Écran, qui sont basés sur l'UNEL et qui sont spécialistes des questions, justement, des bonnes pratiques autour de la parentalité, hein, de pouvoir communiquer aux parents comment, justement, on agit avec nos enfants, avec nos adolescents. Et on va également avoir l'association eSport Village, qui est là aujourd'hui, qui est avec nous, notamment sur toute une partie rétro gaming, et qui va pouvoir aussi discuter avec les parents de peut-être l'importance c'est de jouer avec les enfants, de comprendre l'univers du jeu vidéo avec eux et de pouvoir ensuite en parler pour justement faire de la prévention et de la sensibilisation.
Oui, parce que du coup, c'est un peu contrastuel, pardon, parce que du coup, festival du numérique, mais du coup, les jeux, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même des jeux en boîte, etc. Donc,
on a voulu aussi montrer sur ce temps de festival les aspects positifs du numérique et aussi les alternatives et notamment les jeux en bois. Donc le centre socio-culturel La Gantique a la chance d'avoir une ludothèque, de proposer cette animation régulièrement tout au long de l'année, et ça propose une alternative, une séance de jeu avec les parents. Ça peut commencer par des jeux en bois et puis ça peut être sur un jeu de plateau, puisque aujourd'hui les jeux de société, il y a énormément de jeux de société qui sont en lien avec des jeux vidéo très connus, très prisés des adolescents. Je pense à un jeu, par exemple, Minecraft, qui est aujourd'hui proposé en jeu de plateau. Et il y aura un atelier pour pouvoir jouer parents, enfants, demain, autour de ce jeu, qui est connu par le côté vidéo, mais qui existe en jeu de société.
Oui, ok.
Non, ça me fait sourire, parce que du coup... On a annoncé le jeu Minecraft en activité ludique, participative, et du coup les jeunes vont pouvoir se retrouver sur un jeu en bois, donc physique, et je trouve ça assez drôle, quoi.
Puisqu'on est dans le déroulé de la programmation, il faut qu'on parle aussi d'une proposition demain, donc samedi à 15h. Il y a je ne sais pas si on peut appeler ça un spectacle, le dispositif Habité en ado. En tout cas, c'est le Puppet Sporting Club qu'on connaît bien, qui fait de la marionnette, qui parle avec les ados des questions notamment de harcèlement, donc qui est aussi lié tout ça, cet univers numérique, et qui là a monté ce projet qui s'appelle Habité en ado. Et c'est un départ de la salle des fêtes de Ganges, donc j'imagine qu'on va se balader. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Sébastien ?
Tout à fait. C'est une action qui est mise en place en partenariat avec l'association Les Addis Platinés dans le cadre de la saison des Transsevenols. Donc Puppet Sporting Club, c'est une compagnie de marionnettes, effectivement, qui est implantée sur le territoire, au Vigan. Et donc non, c'est pas vraiment un spectacle, c'est un parcours numérique. C'est le parcours numérique, c'est le résultat d'un travail de création en territoire, comme on dit, qui a été réalisé sur Ganges depuis le printemps dernier. Et donc, en fait, la compagnie réfléchit à imaginer des parcours, entre guillemets, sensibles sur la question des lieux de l'adolescence à Ganges. Et donc, pendant le printemps, la compagnie est venue interroger des personnes, des habitantes, des habitants, que ce soit par l'intermédiaire de La Gantique, que ce soit à l'EHPAD, à l'accueil, que ce soit dans les rues. Enfin, voilà, il y a plusieurs temps comme ça qui ont été dédiés à la récolte de témoignages. Et la question, c'était, vous, en tant qu'adolescent, quels ont été les lieux d'engagement dans l'espace public qui vous ont marqué pour une quelconque raison ? Et donc, cette question, elle se posait à des adolescents d'aujourd'hui, mais aussi à des adolescents d'hier. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette dimension... intergénérationnel, et de voir quels endroits de Ganges ont pu être marquants comme ça dans l'imaginaire collectif. Et donc cette récolte de témoignages, elles en ont recueilli, on va dire, la substantifique moelle qui a servi de base à l'écriture de ce parcours numérique. Et ensuite, dans la réalisation proprement dit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, vous avez un parcours. Demain, on a rendez-vous à 15h devant la salle des fêtes. On va aller au point de départ du parcours sur lequel on va pouvoir trouver une plaque avec un QR code. Avec ce QR code, on va pouvoir télécharger une application libre de droit. Et sur cette application, eh bien, on va nous inviter à partir d'Engange à la recherche de ces lieux de l'adolescence. Et sur chaque lieu, en fait, il y a une scénette qui aura été tournée précédemment avec des marionnettes et qui va aussi présenter les textes seront les témoignages en fait qui ont été recueillis au printemps. Et donc ce parcours va nous amener à divers endroits de Ganges.
Et diverses époques alors aussi du coup.
Et diverses époques. Ces ateliers, il faut savoir aussi que, enfin, ces vidéos, elles ont aussi été réalisées dans le cadre d'ateliers avec des ados de l'appart au centre social Agantique. Donc voilà, il y a une démarche hyper participative dans la création de ce projet. Et donc voilà. Alors aujourd'hui, la création du parcours est encore en finalisation. Donc nous, on va le découvrir en même temps que tout le monde samedi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce parcours ensuite, eh bien, il sera toujours là. C'est-à-dire que la plaque va rester à l'endroit. On le dévoilera demain le lieu de départ exact du parcours. Mais la plaque restera à demeure et ce parcours pourra se faire par n'importe qui tout au long de l'année. Il suffira juste de scanner le QR code, de télécharger l'appli et de partir d'Engange.
Voilà. Alors pour le découvrir, donc demain 15h, départ de la salle des fêtes pour le lieu secret, ça s'appelle Habiter en ado et c'est une des nombreuses ramifications du projet du Poupette Sporting Club qui chôme pas en ce moment, j'ai l'impression. On parle de toutes les semaines.
Oui, c'est ça. Et puis la semaine prochaine, elles seront en intervention au Collège de la Présentation, toujours avec les Elvis, avec le spectacle HS.
Alors si on revient un petit peu sur cette journée-là, sur ces deux journées-là du festival numérique des Cévennes Connectées, est-ce que vous voulez bien nous présenter un petit peu ce qu'on peut trouver, comment vous avez construit aussi cette proposition, parce vous avez découpé en trois espaces, trois thématiques en tout cas. Il y a un côté effectivement éducatif, il y a un côté ludique. On a vu qu'il y avait du jeu pour le jeu, il y a aussi du jeu pour l'apprentissage. Comment est-ce qu'on vous avez réussi un peu à mélanger tout ça?
C'est vrai qu'on a essayé de travailler sur ces trois axes, qu'on essaye de retrouver la partie ludique, mais mettre en avant aussi le numérique par la découverte des métiers. Ça nous semblait aussi intéressant, en tout cas, si on voulait cibler les parents et les ados sur cet axe-là. Et puis voilà, et tout ce qu'on a parlé auparavant sur les bonnes pratiques. On a travaillé notamment avec les deux techniciens de la communauté de communes. On a été accompagnés par les services de la DRAN, on a été énormément accompagnés aussi par le CRIJ, le Centre Régional d'Information Jeunesse, qui est là avec nous aujourd'hui. Et ça fait 2 ans qu'ils nous ont accompagnés. On est allé sur des festivals numériques, on est allé aux deux manifestations super-héros, qui est organisée par la ville de Montpellier. On est allé rencontrer la commune de Pézenas, qui avec leur service Enfance Jeunesse ont organisé également un festival numérique. Donc voilà, on est allé un petit peu à la pêche des informations. On a rencontré les différents partenaires qui sont présents aujourd'hui sur ces différentes manifestations aussi. Et on a fait le choix en lien avec nos trois axes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va retrouver sur le Space Game, par exemple, on a le réseau Canopée. On a sur le Labo 2.0 Slop qui font tout une proposition de doublage de cinéma d'animation. Ça, je sais qu'auprès pas que des petits, les grands aussi adorent s'essayer à cet exercice. Voilà, on a l'Office du tourisme avec leur casque virtuel pour visiter différents sites du territoire. On a la mission locale Garrigues-Cévennes pour la découverte des métiers avec des casques aussi réalité virtuelle. Voilà, donc énormément de propositions.
Il y a pas mal de robots aussi.
Il y a pas mal de robots. Donc ça, c'est la communauté de communes avec la LSH qui propose aussi pas mal de robotique. On a le Collège Louis-Michel aussi qui est là avec pas mal de robotique. On a beaucoup, on a une impression 3D, on a des différents axes. Il y a de quoi bien profiter de la journée aujourd'hui et demain.
Et Hérosport qui sont là aussi.
Bien sûr.
On ne les attendrait pas forcément là, mais en fait, il y a effectivement maintenant, via l'e-sport et pas mal d'interfaces, des manières de faire du sport. Et eux, en tout cas, ils se promènent avec un petit arsenal avec des écrans, des vélos. Donc, et dans le hall d'entrée aussi, j'ai été les voir, mais je n'ai pas encore eu le temps de les interviewer. Il y a
IDEMA qui propose tout un système numérique de jeux pédagogiques sur grand écran. Donc en fait, la base, c'est un grand mur blanc et c'est vraiment très intéressant à découvrir. Et là, c'est vraiment une grosse surprise. On a une grande chance de les avoir, parce que c'est très difficile de les avoir. Donc, on est très heureux. Malheureusement, on les a qu'aujourd'hui. On les aura pas demain, mais demain, il y aura d'autres propositions. Demain, par exemple, on va avoir tout un tournoi e-sport qui sera organisé, notamment par e-sport Village, qui est géré par Tony Elenk, qui est un grand gamer connu.
Héloïse, je vais te poser une question en fait à toi, parce que tu es plus jeune que nous. Oui. Tu es maintenant étudiante en journalisme, tu es à Montpellier, donc les outils, en tout cas tout ce qui est son, image, vidéo, vous travaillez beaucoup avec. Est-ce que quand tu étais plus jeune et que du coup tu as grandi ici, tu étais au collège et lycée sur le territoire, est-ce qu'il y avait déjà un petit peu des choses qu'on vous a proposées dans ces domaines-là, du numérique, de l'image, ou est-ce que ta génération, vous avez tout appris par vous-même, tu as l'impression ?
Alors des journées comme ça, moi j'ai jamais connu. Je me souviens que quand j'étais en primaire, fin de primaire, j'avais quelques cours sur les ordinateurs, etc. Mais vraiment très peu. Mais oui, non, nous on a tout appris comme ça. Enfin, ça a évolué en même temps que ce qu'on a grandi. Donc oui, non, moi j'ai jamais eu d'éducation à ça vraiment quoi.
Et sur la question, bon, hormis le côté professionnel, ça, je pense que les jeunes, vous vous débrouillez bien en fait pour apprendre tous ces outils. Mais sur qu'on a parlé des bonnes pratiques, en fait, c'est une manière aussi un peu de parler des dangers qu'il peut y avoir, hein, notamment avec les images sur les réseaux, le harcèlement. Je pense qu'on vous en a pas mal parlé. Ces choses-là, toi, c'est des choses que t'as, c'est des sujets dont vous parlez entre jeunes, en tout cas de votre génération.
Entre jeunes. Très peu, c'est peut-être juste moi, je sais pas, mais non, entre nous pas vraiment. Après entre nous, non. Enfin, par exemple, j'ai pas une discussion que je vais avoir avec mes amis, mais je sais que sur les réseaux sociaux et tout, les gens en parlent, donc on tombe dessus. Et puis après, maintenant, il y a même plus besoin vraiment d'en parler à mon âge, enfin j'ai 19 ans, donc les gens savent en fait, on sait les dangers, on sait les causes, les conséquences, on connaît, donc c'est vrai qu'on en parle pas énormément entre nous, mais parce qu'on sait déjà en fait.
Et sur la partie professionnelle, donc tu fais du journalisme, tu repars en cours là, la semaine prochaine. Vous utilisez beaucoup, j'imagine, les nouveaux outils, smartphones, etc. Réseaux sociaux aussi, c'est des choses qu'on vous apprend.
Ouais, on nous oblige tous à avoir une application sur notre téléphone pour voir les nouvelles. Donc moi, j'ai par exemple Le Monde pour avoir les informations en temps réel. Et puis on nous demande d'avoir les réseaux sociaux, au moins Instagram ou quoi, d'avoir les réseaux sociaux. Ils nous disent, on s'en fiche que vous postez rien dessus, ça c'est personnel, mais vous devez avoir les réseaux sociaux parce que en 2025, pour être informé, c'est le plus rapide. La télé, ça arrive. Qu'il se passe quelque chose, c'est le téléphone en premier. Donc oui, non, on nous demande, et puis on utilise beaucoup nos téléphones aussi. Hein. Les micro-trottoirs, c'est plus simple. Donc on utilise beaucoup ça et on nous le demande.
Et dans tes professeurs, il y en a de différents âges, j'imagine. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a vraiment une bascule de génération entre ceux qui ont grandi comme nous avant cette période-là et les plus jeunes qui sont à fond dessus? Est-ce qu'on continue de vous apprendre les choses, tu penses, d'une manière un petit peu traditionnelle? Ou est-ce que c'est un enseignement qui est très axé sur les nouvelles pratiques ?
Non, après, moi, mon école, ils ont beaucoup misé sur aussi le fait que tout est neuf, que tout est du matériel dernier cri, etc. Donc tous les profs, même des profs plus âgés et tout, ils sont vraiment sur les dernières technologies, les derniers logiciels de montage, tout ça. Donc ça, non, ils sont vraiment à jour sur ça. Et j'ai pas vraiment de profs qui sont vieille école. J'en ai pas du tout, en fait, même.
Alors, je termine avec mes questions de génération. Là, j'ai une petite angoisse d'agir, je pense. Est-ce que toi, déjà, tu te sens, par rapport aux plus jeunes, est-ce que tu te sens déjà dépassé, ou en tout cas, tu sens que les choses changent très vite au niveau des usages, je sais pas, du téléphone, des espaces dans lesquels vous discutez ou pas ? C'est ça, parce que là, on a des jeunes devant nous, ils ont 7, 8 ans, je pense qu'ils sont déjà ultra connectés.
Oui, quand même, ils sont... Moi, j'étais sur les téléphones, etc. Je l'ai été tôt, je trouve, mais pas aussi tôt que ce qu'ils le sont maintenant. Et oui, non, c'est sûr qu'il y a un écart. Et puis, quand on voit sur les réseaux sociaux, parfois, on voit des enfants qui ont 11 ans, 12 ans qui sont sur les réseaux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Nous, à notre âge, ça commençait à se répandre, mais il y en avait beaucoup moins maintenant. J'ai l'impression que c'est la norme, en fait. Donc oui, il y a quand même un écart sur ça. Okay, ouais.
Et je me tourne maintenant vers la Gantique, Sonia. Et vous, vous travaillez aussi, Sonia et Sébastien. Vous travaillez avec des ados, des jeunes. Donc, c'est une question qui est forcément là. Enfin, à quel moment est-ce qu'on arrive à retourner en se disant, bon, en fait, le portable, c'est pas forcément mon ennemi? Ou alors, comment est-ce qu'on gère, justement, dans les activités qu'on propose, ces temps collectifs que vous essayez, j'imagine, de créer?
Alors d'abord, on va s'appuyer sur des professionnels dont le métier, justement, c'est de pouvoir travailler cette sensibilisation avec les ados. Et puis, voilà, différentes choses. Hein. On a pu mettre en place, par exemple, avec les ados, à un moment donné, on a travaillé sur le cyberharcèlement au travers de la réalisation d'un film. Donc, c'est toujours amener la sensibilisation, mais d'abord prendre l'axe de l'animation, de l'intérêt du jeune, donc voilà, la réalisation d'un film pour pouvoir parler d'une thématique autour du harcèlement, du cyberharcèlement, et ensuite pouvoir s'appuyer sur des professionnels pour mettre différents ateliers en place. Donc on fait ça. On a également sur l'axe parentalité, on va travailler sur la gestion des écrans. Voilà, à partir de quel âge, les 0-3 ans, comment on fait, les 3-6 ans, et là on est accompagné par la PMI. Notamment sur le service de Grange. On va également mettre différents axes de prévention, sensibilisation, mais pas que. On va aussi accompagner les personnes sur l'inclusion numérique, parce que c'est aussi important d'avoir cet axe-là. Nous, ça fait partie de notre projet social. Et on a notamment un espace numérique ouvert à tous à la Gantic. On propose également une permanence médicale pour les personnes qui sont complètement perdues aujourd'hui, d'autres générations, mais pas que. Je vous assure que ce n'est pas forcément une question d'âge. En tout cas, moi, ça m'a surprise parce que j'avais cette image en tête. Mais ce n'est pas forcément une question d'âge. Et pouvoir prendre un rendez-vous chez un médecin spécialiste via Internet, il y a les jeunes, quelquefois, qui peuvent galérer aussi parce qu'autant ils savent gérer les applications ou les réseaux sociaux, mais aller prendre un rendez-vous, c'est plus complexe. Donc, on a la chance d'avoir cette permanence-là. Et on a également des ateliers informatiques qui vont de l'initiation jusqu'au confirmé pour pouvoir creuser aussi tout ce qui est la cybersécurité et autres domaines.
Et les jeunes à qui vous proposez ces ateliers ou à qui vous proposez ces moments de jeu, ils disent quoi sur leur rapport justement au téléphone, au temps qu'ils passent dessus, quel retour vous avez l'impression qu'ils ont sur leur propre pratique? Est-ce que c'est encore, ils le prennent des fois comme un discours moralisateur ou est-ce qu'il y a une conscience de c'est vrai qu'il faut faire gaffe, ou finalement eux ils trouvent tout va bien et c'est nous qu'en faisons peut-être trop, ou peut-être qu'ils sont pas si accros qu'on pense aussi. Peut-être qu'il y a une diabolisation de la part des générations de parents, je sais pas.
Alors, je pense qu'il y a une question d'âge aussi, hein, de l'ado. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que grâce justement à tous les professionnels, à tout ce qui est fait aussi dans les milieux scolaires autour de cet axe prévention, les ados aujourd'hui, effectivement, ils savent. Lorsque j'ai pris l'exemple de la réalisation du film, on leur a dit quel sujet on fait. Et tout de suite, en fait, ils ont parlé du harcèlement, du cyberharcèlement, en disant c'est les portables, mais on sait très bien. Avec le portable, on sait très bien qu'on va pouvoir envoyer 15 textos et pourrir la vie de notre collègue de classe. Ils en étaient tout à fait conscients. Donc, ils sont conscients des dangers, ils savent utiliser. Après, effectivement, je pense que de temps en temps, il faut juste leur dire, peut-être que le portable, on n'en a pas besoin. Mais comme pour les adultes aussi.
Sébastien, je te voyais opiner.
Oui, j'opinais à ta remarque sur la crainte, en fait, de... Alors des adultes, entre guillemets, des parents en tout cas, et ça c'est générationnel effectivement. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence et la capacité d'adaptation des jeunes générations, et que souvent c'est plus nous qui sommes démunis par rapport à ces nouveaux usages numériques, et qui avons peur pour nos... Je le dis en connaissance de cause parce que étant parent, j'ai pu vivre ça avec mes propres enfants aussi. Et parce que nous-mêmes, peut-être, nos générations maîtrisent moins ces codes-là, maîtrisent moins ces usages. Mais par contre, je le redis, il faut faire confiance à l'intelligence de la jeunesse sur l'accaparation de ces outils, quoi.
Héloïse, ça te parle ce qu'on dit?
Non mais c'est vrai, mais parce que moi la première, quand des adultes me parlent des réseaux sociaux, du temps d'écran, etc., moi la première ça me saoule, et parce qu'en fait c'est des choses qu'on sait et qu'on nous rabâche, et des choses du coup ça paraît tellement banal à force qu'on nous le dise, qu'on n'y fait plus attention, mais en fait c'est des choses, moi je sais que ça m'énerve, mais parce que je le sais en fait. Donc c'est vrai que parfois ça peut avoir un aspect un peu moralisateur, mais c'est quand même important de le dire, je pense.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là pour commencer ce plateau avec nous sur une technologie de dinosaures, la radio, la FM. Bon, on est quand même sur Internet encore.
Ah, ça va.
On a un ordinateur quand même. Ça marche bien. Bonne journée à vous. Bonne journée au pluriel même, parce que demain, ça continue. Ce soir aussi. Et puis, on va se faire une pause musicale et on se retrouve juste après. On va continuer à discuter autour de toutes ces questions. À très vite.
Merci.
Merci. L'entourloupe et Pouman. Le morceau, c'est Boulang Beauty. C'est Fabien qui est en technique avec nous pour ce plateau en direct depuis le festival numérique des Cévennes connectées. C'est une proposition portée par l'Agantique avec le soutien de la communauté des communes des Cévennes gangeoises et suménoises. On est à la salle des fêtes de Ganges pour cette journée aujourd'hui du vendredi dédiée aux scolaires et même aux petits scolaires, hein, puisqu'on a des classes de primaire, des petits bouts. Le numérique, ça commence à pas d'âge. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Pierre Guillaumard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc représentant ou directeur,
Alors, je suis le directeur du site de Montpellier Hérault pour le CRIJ Occitanie. Le CRIJ Occitanie étant le centre régional information jeunesse.
Donc, tout à fait pertinent, votre présence aujourd'hui, tout à fait logique.
Alors, logique, parce que oui, quand on parle d'information des jeunes, aujourd'hui, la dimension numérique, elle est complètement incontournable. Et d'ailleurs, plus que de l'information, aujourd'hui, on fait de l'éducation à l'information. Autant il y a 20 ans, notre métier, c'était de mettre à disposition des classeurs, des guides, des fiches. Aujourd'hui, on accompagne plutôt les jeunes dans... leur recherche d'informations et on leur explique un petit peu, on les accompagne dans comment on trie, on hiérarchise une information comme peuvent le faire les journalistes d'ailleurs.
En EMI, ce qu'on appelle l'EMI, l'éducation média à l'information.
Exactement.
D'accord. Il vient d'où cet organisme, le CRIJ ? C'est quoi son histoire ?
Alors le CRIJ est un vieux truc, hein. On est né dans les années 68. Parce que les jeunes, après les événements de 68, ont demandé à avoir des lieux où ils pouvaient s'informer de manière gratuite, anonyme et inconditionnelle. Donc les services de l'État, en l'occurrence les services de l'État en charge de la jeunesse et des sports, ont créé, suite à ces demandes, à ces doléances des jeunes, le réseau Information Jeunesse, qui actuellement est composé d'environ 1000 structures en France qui bénéficient d'un label d'État, qui est le label d'information jeunesse. Et ces structures, en fait, accueillent, informent, accompagnent, orientent les jeunes de 11 à 30 ans de manière anonyme, gratuite et inconditionnelle, je le répète, sur toutes les thématiques qui peuvent les préoccuper au quotidien. Ça peut être le logement, ça peut être les jobs, les questions d'orientation, des questions de mobilité internationale. Donc voilà, c'est notre travail depuis maintenant presque 50 ans. Par contre, effectivement, vous l'avez compris, le métier a changé, puisqu'il y a 30 ans, l'information était un matériau plutôt rare qu'on trouvait dans les médiathèques, dans les centres de documentation. Il y a un truc qui est arrivé aux alentours des années 2000 qui s'appelle Internet et qui a complètement changé nos métiers et qui nous a contraints, mais c'est très bien, de nous adapter et de réinventer nos manières d'accompagner les jeunes. Et vraiment, je le répète, notre métier aujourd'hui, c'est de permettre aux jeunes de faire les bons choix en accédant à la bonne information. Vraiment avec une visée émancipatrice. Notre objectif final, c'est quand même l'autonomie et l'émancipation des jeunes.
Et alors, vous travaillez, vous êtes en espace à vous, mais sinon vous êtes sur les facs, vous allez en milieu scolaire, hormis les journées comme celle-ci ?
Alors aujourd'hui, on accueille toujours dans nos lieux d'accueil et puis les structures qui sont labellisées. Dans l'Hérault, on a 17 structures qui bénéficient du label d'État, qui sont souvent portées par des collectivités. Donc c'est souvent dans les espaces jeunes. Des fois, ça s'appelle BIGE, PIGE. Des fois, on est reconnu sous ces dénominations. Mais autant on continue à accueillir, accompagner les jeunes dans nos structures, autant aujourd'hui, on est beaucoup hors les murs des événements comme celui d'aujourd'hui, dans les collèges. Par exemple, on intervient beaucoup dans les collèges sur la question de l'orientation, de la découverte des métiers. Cette semaine, on était à Mende, en Lozère, pour travailler sur la question du genre dans les métiers avec des lycéens. Donc de plus en plus, effectivement, on est hors les murs, en allée vert. On va là où sont les jeunes et on n'attend plus que les jeunes en fait, viennent dans les structures d'accueil. Globalement, ils ont un peu perdu cette habitude de se rendre dans les structures d'accueil. Donc on va vers eux et c'est très bien comme ça aussi.
Et du coup, est-ce que vous êtes mis sur les réseaux sociaux pour aller là où les jeunes vont chercher l'info ? Est-ce que vous avez réussi à passer ce cap, d'aller proposer vos contenus en ligne ?
Ouais, très vite, très vite. Moi, il y a longtemps, hein, je m'occupais de tout ce qui était réseaux sociaux dans un autre CRIJ à Lyon, le CRIJ Rhône-Alpes à l'époque. Et dès que Facebook est arrivé, alors ça paraît vieux, hein, Facebook, on y est allé parce qu'on s'est aperçu que les jeunes s'informaient via les réseaux sociaux. On s'est vite aperçu que Facebook, ça devenait le réseau social des darons, donc on a quitté Facebook. Ou alors on utilise Facebook en sachant qu'on va plutôt s'adresser à des parents, aux profs, aux partenaires. Et aujourd'hui, effectivement, notre terrain de jeu, c'est plutôt Instagram et Snapchat. Beaucoup Instagram. On a trouvé une place plus facile sur Instagram que sur Snapchat et TikTok, qui sont des réseaux sociaux qui sont plus difficiles à appréhender pour des structures comme la nôtre. Donc beaucoup sur Instagram, et on sait que on arrive à toucher des jeunes via des stories et des réels sur Insta. Ouais.
Est-ce que vous faites partie des structures qui sont sollicitées, on a parlé des collèges, mais pour justement l'EMI qui fait partie des enseignements obligatoires maintenant, est-ce que ça s'inscrit dans ce cadre-là aussi des fois ?
Alors ça s'inscrit en partie dans ce cadre-là. L'EMI, c'est une discipline qui est quand même assez cadrée. Alors je vais me reposer sur les travaux d'Anne Cordier, qui est une enseignante chercheuse qui travaille sur ces questions d'EMI. Et Anne Cordier définit plusieurs types d'informations. L'information médiatique, celle que vous connaissez notamment bien dans les radios. L'information documentaire, scolaire. Ça, c'est vraiment le travail du CLEMI, par exemple. Et puis, il y a l'information de service. C'est comment, quand je suis jeune, je cherche des informations sur, je cherche un logement autonome. Est-ce que j'ai le droit à l'APL ? Donc nous, on va se situer plutôt sur cette information de service, parce qu'on sait que les jeunes, parfois avec leurs parents, vont aller chercher des informations. Bah tiens, j'ai envie de partir à l'étranger, comment je peux m'y prendre, quelles informations je peux trouver. Donc nous, on va plutôt se situer sur de l'éducation à l'information dans ce domaine-là. Et notamment, je parlais du logement, de la mobilité internationale. Aujourd'hui, sur Montpellier, on a une très forte crise du logement étudiant. Il y a beaucoup d'arnaqueurs qui profitent de cette tension. On sensibilise beaucoup les jeunes à « attention, ça c'est une arnaque ». Attention, méfiez-vous de tel ou tel message qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Donc, on fait de l'EMI, mais j'ai envie de dire un petit peu en mode information jeunesse. C'est vraiment de l'EMI qui est consacré à ce qu'on peut appeler l'information de service. C'est je cherche un stage, un métier, un logement, etc., etc.
Le vrai monde, quoi. Qui est le vrai, entre guillemets. En tout cas, les choses dont on a besoin pour la vie quotidienne, et qu'on fait des fois sans trop réfléchir, en allant rapidement sur Internet ou en...
Ah oui, je parlais du logement, mais souvent les lycéens, en choisissant leurs études supérieures, n'ont pas forcément anticipé qu'ils vont aussi devoir chercher un logement des fois sur des métropoles étudiantes, alors qu'eux viennent peut-être de plus petites villes, voire des zones rurales. Et pour eux, généralement, ils se confrontent à un principe de réalité que plus tu anticipes, mieux c'est. Bon, il y a aussi des phénomènes qui font que tu ne peux pas toujours anticiper. Parfois, Parcoursup donne des réponses tard. Donc ça donne des arrivées d'étudiants sur les métropoles tardives. Ils arrivent après tout le monde, donc c'est compliqué. Donc oui.
Et le rapport aussi aux administrations, aux services publics, etc., qui sont pas... Enfin, il y a aussi des organismes qui s'occupent de ça, mais j'imagine qu'il y a du boulot, il y a suffisamment de boulot pour tout le monde.
Oui, il y a assez de jeunes pour tout le monde. Après, nous, on est généralistes, donc le travail des généralistes, à un moment, il s'arrête, parce qu'on n'a pas non plus toutes les expertises.
Vous orienter,
par exemple, sur les questions d'insertion professionnelle, on renvoie vers la mission locale qui accompagne les jeunes avec des dispositifs vers l'emploi. Donc notre expertise s'arrête, et elle s'arrête forcément à un moment, on oriente vers nos partenaires qu'on connaît bien, parce que ça fait longtemps qu'on est sur les territoires. Donc voilà, je répète, on va orienter vers la mission locale sur les questions d'insertion professionnelle, sur des jeunes qui pourraient rencontrer des problèmes de santé mentale, puisque on en parle beaucoup en ce moment, vers des structures qui accompagnent les jeunes, qui proposent des rendez-vous avec des psychologues. Donc effectivement, nous, à un moment, notre expertise, elle s'arrête, et là, on sait qu'on doit orienter vers les bons experts. Un peu comme un médecin généraliste oriente un patient parce qu'il a un problème au cœur, bah, très vite, il va l'orienter vers un cardiologue, parce que lui, il n'est pas cardiologue.
Et là, si on revient à la journée donc de ces événements connectés à Ganges aujourd'hui, là, aujourd'hui, vous êtes préparé à rencontrer un public assez jeune. Qu'est-ce que vous avez amené comme outil, comme thématique, justement ?
Alors, on savait qu'on allait avoir des jeunes, des petits tout, notamment du primaire. Donc, on a amené des casques de réalité virtuelle. Un peu dernière... Enfin, c'est c'est déjà des casques qui marchent bien. C'est des Quest 3. Qui permettent d'avoir de la réalité virtuelle assez souvent assez impressionnante, hein, quand on le met sur la tête des petits tout, souvent waouh. Et puis ça permet aussi de faire de la réalité mixte virtuelle, c'est-à-dire qu'on peut la réalité l'aspect virtuel va s'inscrire dans l'environnement réel. Donc ça permet des choses souvent qui interpellent un petit peu les jeunes. Après, ça c'est un côté un petit peu ludique. Nous, on souhaite aussi utiliser la réalité virtuelle, par exemple, pour leur faire découvrir les métiers. Ça c'est des choses qui marchent très bien. Et aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent de s'immerger dans des métiers en étant en interaction. Donc, par exemple, on a un logiciel qui permet de tester des machines-outils pour des jeunes qui voudraient devenir menuisiers. Donc le but de ces casques de réalité virtuelle, c'est pas uniquement de consommer, de regarder, c'est pas que du ludique, on y met vraiment une dimension éducative, et on sait que les jeunes sont attirés par ces outils, donc bien sûr on les utilise. Et puis sinon, je parlais tout à l'heure d'éducation à l'information, on a aussi un jeu qui marche bien avec les groupes, qui permet de voir ce qui est produit par une IA et ce qui est réel, même si ce qui est produit par les IA est réel, hein, bien sûr, mais on les fait réfléchir un petit peu sur leur utilisation de l'IA au quotidien. Les petits tout, pas trop, mais on sait que les collégiens, dès qu'ils arrivent au 6e, ils commencent à utiliser ChatGPT ou les IA qui sont sur Snapchat. Et on sait aussi, parce qu'on les a questionnés, qu'ils le font pour faire leurs devoirs. Alors, c'est un éternel recommencement. À une époque, c'était Wikipédia. Bon, aujourd'hui, c'est ChatGPT. Mais on veut les sensibiliser sur cette question-là pour que les encourager à avoir des usages raisonnés de ces outils, et de pas bêtement demander à ChatGPT ou une autre IA de faire ses devoirs bêtement.
Sachant que ChatGPT peut dire des bêtises plus que Wikipédia.
Bien sûr. Donc c'est tout ça qu'on veut aussi, on veut sensibiliser les jeunes. Alors nous c'est vrai que c'est 11-30 ans, donc là quand on a des petits tours, on n'est pas tout à fait dans notre tranche d'âge, ce qui n'est pas grave du tout. Mais voilà, on pense que dès le collège, on doit vraiment sensibiliser les jeunes à l'utilisation des IA, qui est aujourd'hui massive chez eux. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être la scolarité, mais la recherche d'informations. J'ai appris cette semaine qu'on commence à avoir des jeunes qui rencontrent des problèmes de santé mentale, qui ont trouvé en ChatGPT ou autre IA des excellents psys. Alors excellent avec plein de guillemets, parce que j'ai un petit doute. Mais bon, on est quand même face à des enjeux qui sont gigantesques et qui touchent vraiment notre cœur de métier. Hein. C'est comment les jeunes accèdent à l'information et comment ils prennent les meilleures décisions à partir de la meilleure information.
Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu, bah, vous avez parlé des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut aller retrouver vos actions ou les lieux dans lesquels peut-être vous opérez sur le territoire là ?
Alors on a un site internet régional qui s'appelle crige.org, www.crij.org, crige.org, qui permet de retrouver bah, notamment la cartographie de tous nos points d'accueil en Occitanie. Et notamment sur l'Hérault, donc on en a à peu près 90. Bien sûr, les jeunes peuvent nous suivre sur les comptes Instagram, InfoJeunes Montpellier, InfoJeunes Toulouse. Et puis sur l'Hérault, on a un site vraiment spécifique qui s'appelle InfoJeunes Hérault, qui nous permet de contextualiser un peu l'information en termes d'événements, d'actualités. Donc les jeunes, bien sûr, peuvent aller sur ces ressources. On a aussi un outil qui s'appelle La Boussole des Jeunes, qui est un site de ministère en charge de la jeunesse et qui permet aux jeunes de découvrir toute l'offre de services qui s'adresse à eux sur un site web qui s'appelle laboussoledesjeunes.gouv.fr. Donc il faut vraiment que les parents et les jeunes n'hésitent pas à solliciter cette plateforme qui permet, en fait, d'un point de vue territorial, de voir tout ce qui s'adresse aux jeunes. Toutes les structures en fait, qui proposent des offres de services en direction des jeunes. Donc voilà, les parents, les jeunes ont ce panel d'outils pour entrer en contact avec nous. Après, je le répète, le mieux, moi j'ai la conviction que le mieux, c'est quand même de venir nous voir dans nos structures. Nous, notre métier, c'est un métier de l'accueil, de l'humain. Et même si on sait qu'on va attirer l'attention des jeunes, des parents sur des événements, sur les réseaux sociaux, nous, notre cœur de métier, il se déroule dans nos structures d'accueil, au contact des gens. C'est un métier du relationnel, de l'humain. Et donc, vraiment, il faut venir nous voir, en fait.
Pierre-Guillaume, merci beaucoup.
Merci.
Et bonne continuation pour cette journée connectée à Ganges, le festival numérique. Quelle heure il est, Fabien ? Je n'ai pas l'heure, je suis désolé. Il est 11h15, on va se refaire une petite pause musicale avant de conclure ce premier plateau en direct depuis la salle des fêtes de Ganges. A tout de suite sur Radio Escapade. sommes toujours au Festival numérique des Cévennes, connecté à Ganges, c'est 10 et 11 octobre. Nous sommes aujourd'hui en journée scolaire, mais demain est une journée ouverte à tout le public. Je rappelle que c'est un événement qui a été organisé dans le cadre du TNE 34 de l'Hérault. Ça s'adresse donc aux élèves des cycles 3, du CM1 à la 6e, enseignants, animateurs, mais également les parents qui souhaitent mieux appréhender les enjeux liés aux usages du numérique. Il y a trois grands espaces thématiques, l'espace Space Game, l'espace Créazone et l'espace Labo, avec donc des côtés, on l'a dit, ludique, quiz autour du sport aussi, pas mal. Venez, Monsieur Fabrier est en train de nous recevoir. Ah, je suis en direct, Monsieur Fabrier. Mais on parle de la journée, puis après on parle... Ouais, s'il vous plaît, voilà. On fait du direct et on va chercher nos invités à la minute près. Monsieur Fabrier nous a rejoint autour de la table. On est en train de terminer ce premier plateau. On a déjà bien, je vous ai pris au dépourvu, on a bien déroulé le contenu. On a eu quelques invités aussi qui font de l'information pas mal sur le numérique. Et je voulais juste votre ressenti sur cette encore une grosse journée organisée avec la communauté des communes, toutes les associations du coin. Cette fois-ci avec un axe plus numérique. On vient des fois ici pour le salon pour l'emploi. On est déjà venu sur la santé. Là, on est dans un univers un peu dans le futur. En fait, on est dans le présent surtout. Comment est-ce que vous accueillez encore cette manifestation ?
Alors, bonjour à tous. Le micro fonctionne. Oui. Bonjour à tous. Effectivement, vous ne respectez pas la phase d'échauffement, hein,
non.
Puisque j'étais parti pour un tour des ateliers qui sont proposés à la fois à l'élémentaire et au collège. Et puis tout d'un coup, voilà, me voilà comment dire, en phase de répondre tout de suite et immédiatement à vos questions.
Allez-y.
Écoutez... Je me souviens qu'il y a quelques mois, lorsque dans une rencontre territoriale que nous avons fait en communauté de communes, en accueillant à la fois l'éducation nationale, la DRAN, sur le TNE 34, ça signifie Territoire numérique éducatif 34, nous avions émis le vœu à ce moment-là d'accueillir une manifestation, un événement qui pourrait mettre en avant les atouts de notre territoire et puis évidemment la thématique du numérique. Et c'était il y a quelques mois. Et aujourd'hui...
Les choses vont vite.
Et aujourd'hui, nous y sommes.
Ouais. Oui, il y a un gros tissu associatif local qui permet de mettre en place rapidement des événements comme ça qui ont de l'envergure... et qui sont assez réactifs là avec la Gantic qui fait un gros travail avec les jeunes sur le territoire. C'est des questions dont on parle souvent, hein, ces questions du rapport de la jeunesse et puis aussi des générations précédentes, notamment avec ces nouveaux usages, les écrans, etc. Mais là, il y a aussi tout un volet qui est axé sur les métiers d'avenir, sur les aspects ludiques, parce qu'en fait, ça fait partie de la culture aujourd'hui, en tout cas des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs.
Alors, votre question... relève de deux aspects. Vous m'avez un peu questionné sur les partenaires. Alors effectivement, c'est une manifestation qui ne peut pas se faire sans l'appui et le soutien financier forcément de partenaires institutionnels. Et nous allons non pas les citer puisque ils sont quand même sur la plaquette, les plaquettes que nous distribuons, parce que si nous les citons et que nous en oublions un, ça risquerait de froisser quelques susceptibilités. Mais par contre, donc, ces partenaires institutionnels, et malgré leur positionnement dans l'institution, nous ont vraiment suivis, je dirais presque de deux mois en deux mois, pour préparer cet événement. Et... en complément de ces partenaires institutionnels, je dois quand même insister sur le labeur et le travail qui a été fait par, le trio Monsieur Sabaté et Monsieur Gillot de la communauté de communes, plus Sonia Ferrer, directrice de la Gantic, un travail formidable, régulier. Que l'on pourrait définir comme étant tous trois les chevilles ouvrières de cet événement. Et vraiment, je leur adresse les plus sincères remerciements pour tout ce qu'ils ont pu faire pendant des mois et des mois. Et puis après, il y avait le deuxième aspect. Et le deuxième aspect que vous évoquiez, c'était un petit peu les piliers ou les axes directeurs de cet événement. Et alors, nous l'avons voulu, après maintes et maintes moments de réflexion, nous l'avons voulu sous trois angles. Une partie, le numérique, une partie, j'allais dire, ludique, avec des jeux vidéo, voire même avec l'évolution des jeux vidéo depuis quelques...
On a une belle collection de consoles derrière nous, là, du rétro gaming.
Quelques décennies, donc on a voulu cet aspect ludique. On a voulu montrer aux jeunes scolarisés que le numérique avait été favorable à bon nombre de métiers pour que ces métiers-là soient de plus en plus performants. Et puis nous avons voulu un troisième volet qui peut se résumer avec le numérique et les bonnes pratiques, c'est-à-dire éviter tous les excès que nous pouvons connaître des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, etc. Voilà. Voilà. Donc j'ai essayé de répondre aux deux aspects que vous avez soulignés.
Merci beaucoup. Et donc cette journée va se continuer encore cet après-midi avec des scolaires et demain plutôt des familles. Est-ce que c'est facile d'aller chercher, parce que bon, les enfants ils sont contents et puis de toute façon ça fait une sortie, mais d'aller chercher un public plus large, représentatif de toutes les communes du territoire, parce que là on est à Ganges, c'est la communauté des communes, mais comment est-ce que l'information, j'ai vu, avait beaucoup circulé en tout cas par les différentes mairies et groupes, par exemple sur Facebook, puisque je commence à être un vieux qui est sur Facebook. Mais j'ai vu que ça avait été très diffusé.
Vous avez un peu d'avance sur moi. Hein.
Voilà. Et c'est pas forcément évident de ramener du public sur des événements comme ça.
Non, effectivement. Le territoire numérique éducatif, lorsqu'on nous l'a présenté, il y a 3-4 années en arrière, se partage sur plusieurs piliers. Nous avons l'équipement informatique
qui est mis à la disposition
des écoles du territoire. On sait très bien qu'il y a un pilier qui concerne la formation des maîtres, puisque si on développe l'outil informatique dans les classes, il faut que les maîtres soient formés, donc c'est le deuxième pilier. Il y a un troisième pilier qui relève des ressources, et puis il y a un quatrième pilier qui est diablement compliqué. C'est ce qui va... percuter de plein fouet la parentalité, le soutien à la parentalité, la diminution de la fracture numérique par rapport aux parents, aux jeunes parents qui sont confrontés avec leur enfant à ces problèmes numériques. Et là, quand même, si c'est compliqué pour nous, territoire gangeois, c'est aussi compliqué pour tous les territoires de l'Hérault qui peuvent être Lunel, Béziers, etc. Pourquoi ? Parce que il est difficile d'aller chercher ou de mettre en place, par exemple, des ateliers numériques en faveur des parents. On ose espérer que la belle communication qu'on a pu faire pour le samedi qui vient nous amène bon nombre de familles ou de jeunes accompagnés de leurs parents, ou même des parents qui ne seraient pas accompagnés de leurs enfants. Voilà, mais en tous les cas, effectivement, cette notion de mettre les parents au cœur d'une thématique, qu'elle soit numérique ou autre, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais les territoires y travaillent.
Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, oui. Un beau succès. Oui. Merci beaucoup d'être venu à Brûle-Pourpoint clore ce premier plateau avec nous.
Bon, et maintenant que nous avons passé la phase de l'échauffement, oui, le corps de séance, je vais faire très calmement un retour au calme. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis vous allez avoir affaire à Monsieur le Président de la communauté de communes.
Oui, dans ils vont peu... venir pour le petit mot d'inauguration. Nous, on va rendre l'antenne et la journée continue. On se retrouve à 14h ensuite.
Merci à votre équipe.
Merci, Monsieur Fabry. On va se retrouver, donc, comme je le disais, à 14h pour un deuxième plateau. on va peut-être essayer d'inviter un peu plus les différentes structures éducatives ou même d'emplois qui sont ici sur cette salle des fêtes. Du son aussi, on a commencé à faire un petit peu de reportage avec Héloïse à mes côtés pour compléter tout cela par un petit reportage que vous aurez sur les ondes certainement d'ici la semaine prochaine. On va se laisser en musique pour le moment et on se donne rendez-vous donc à 14h à nouveau en direct depuis cette journée. Le festival numérique des Cévennes connectées, c'est à Ganges, c'est la Gantic et la communauté des communes qui le portent et on vous y attend.
Escapade
et vous
en studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.